Soir dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Merci Seigneur pour toutes les recommandations qui se trouvent dans ta parole. Nous te prions ce soir tous ensemble que tu nous donnes de pouvoir aimer ta parole de plus en plus chaque jour et nous attacher à tout ce qu'elle nous révèle, à tout ce qu'elle nous enseigne, afin que tu puisses être glorifié au travers de nos vies et que, Seigneur, nous puissions être des témoins efficaces dans ce monde corrompu, dans ce monde qui va à la dérive. Nous avons besoin de toi et nous te prions simplement que tu nous viennes en aide par ton esprit afin de pouvoir mettre en pratique ce que tu nous révèles. À toi seul, Seigneur, soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Certainement, plusieurs, dans leurs prières, ont fait allusion à certaines circonstances qui sont notre partage dans le monde à l'heure actuelle. Et c'est bien vrai que lorsque nous écoutons l'actualité de notre pays et puis aussi de tout ce qui se passe dans ce monde, ce qui n'est d'ailleurs qu'une succession de nouvelles toutes plus mauvaises les unes que les autres, nous pourrions être écrasés par un terrible fardeau. Et nous rappelons ensemble un verset qui se trouve dans le psaume 11, où il est dit « Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il ? » Et il est certain que ce verset ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Nous avons certainement à réagir avec la prière, à réagir en menant le combat de la foi, à réagir en nous attachant toujours plus à la parole du Seigneur. Nous sommes tous très attristés par tout ce qui peut se passer dans le monde et en particulier de cette souffrance qui est causée à l'heure actuelle par le moyen de cette guerre inattendue qui est venue subitement et qui nous plonge tous dans un étonnement réel parce que nous ne pouvions pas penser qu'en quelques jours seulement, nous allions retourner à quelque chose comme 70 ans en arrière, et c'est quelque chose de surprenant et quelque chose qui nous fait mal. Cependant, ce soir, mon but n'est pas de vous parler de ces circonstances, parce que je pense que vos oreilles doivent être rabattues d'en entendre parler par la voix des médias. Mais je voudrais faire un parallèle et vous dire, frères et sœurs, que nous sommes tous engagés dans un terrible combat, que depuis le commencement de l'humanité, il y a un terrible combat contre la puissance des ténèbres, contre le mensonge, contre l'erreur, contre également, je dirais, ces esprits de séduction qui sont à l'œuvre d'une manière générale sur toute la surface de la terre, et en particulier aussi qui ont une action dans les églises, dans le peuple de Dieu, pour essayer de détourner de la foi et de l'obéissance à la parole de Dieu, une obéissance simple à la parole de Dieu, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a averti ce jeune collègue Timothée et lui a révélé ceci, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Je voudrais dans un premier temps m'arrêter sur cette expression. D'abord, il est dit « l'Esprit dit expressément ». Si nous cherchions dans la parole de Dieu à trouver des textes qui annoncent cela. Quand je dis la parole de Dieu, là, je veux faire mention des Écritures, de l'Ancien Testament, comme cela nous a été rappelé dimanche, au moment où l'apôtre Paul a écrit cette lettre, les Écritures, eh bien, c'était l'Ancien Testament. Et il serait difficile de trouver des textes où ce que Paul révèle ici, eh bien, soit annoncé d'une manière claire et précise. Mais finalement, ce que nous devons retenir, c'est que c'est au moment même où l'apôtre Paul est en train d'instruire son jeune collègue Timothée, qu'il y a une action du Saint-Esprit avertissant le peuple que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Et je crois pouvoir vous dire, sans crainte de me tromper, que les derniers temps, il y a longtemps que ça a commencé. Parce que les derniers temps, c'est, je dirais même depuis le début de l'Église. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la parole de Dieu nous met en face de cette réalité. Nous sommes entrés depuis bien longtemps dans les derniers temps. Et effectivement, c'est quand même une période particulière que nous sommes en train de vivre, où il est dit « quelques-uns », et je voudrais souligner cette expression, « quelques-uns abandonneront la foi ». Car mes frères et sœurs, il ne faut pas confondre cette période actuelle dans laquelle nous sommes avec ce que la Bible appelle l'apostasie générale, l'apostasie complète dans laquelle, eh bien, le monde se sera complètement égaré et tous les hommes se seront détournés de la foi au Seigneur. Ici, ce n'est que le commencement de certaines choses. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous savez, les esprits séducteurs, il y a longtemps qu'ils sont à l'œuvre dans le monde. Reprenons l'histoire de l'humanité. Adam et Ève sont dans le paradis, ont une relation étroite avec Dieu le Père et leur Créateur. Ils sont dans un bonheur ineffable que nous avons du mal à imaginer, tellement nous vivons dans des circonstances tellement différentes. Mais c'est à ce moment-là que l'ennemi s'est approché d'eux, vous le savez de quelle manière, avec une parole très particulière, et cette parole qu'il a prononcée est celle-ci: Dieu a-t-il réellement dit? Et il a commencé par séduire en faisant contempler Ève, la faisant contempler ce fruit qui était défendu. Elle a vu qu'il était bon à voir, bon aussi, et elle est tombée dans le piège et elle a désobéi à Dieu. Et depuis cet instant, eh bien, la mort et la souffrance est entrée dans le monde. Un peu plus loin, et juste, je dirais, quelques années plus tard, eh bien, nous voyons Abel et Caïn et l'histoire terrible qui est rapportée par l'Écriture. Et nous voyons aussi l'avertissement que Dieu apporte à Caïn au moment où, justement, il n'a pas encore commis l'action définitive qui va l'éloigner de Dieu d'une manière tellement cruelle. Et Dieu l'avertit et lui dit: le péché couche à ta porte. Si tu agis bien, tu te relèveras. Il me semble que Abel a été attentif à la voix de Dieu, mais Caïn s'est laissé séduire et il est tombé dans le péché. Un peu plus loin encore, nous avons l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël. Nous voyons comment il a parlé de la part de Dieu et comment il y a eu des imitateurs de ce qu'il faisait. La séduction venait au travers justement de la manière d'agir de ces deux magiciens qui sont Jean Bresse, mentionné dans la parole de Dieu, et le souvenir ne me vient pas de l'autre personnalité, mais ces deux magiciens qui refaisaient exactement les mêmes choses à l'exception de produire la vie, car seulement Dieu est capable de faire cela. Mais là encore, il y avait la puissance de la séduction qui était à l'œuvre. Encore un peu plus tard, dans l'histoire du peuple d'Israël, nous trouvons la même puissance d'égarement et de séduction qui s'est manifestée au travers d'un certain prophète que nous connaissons tous et qui s'appelle Balaam. Et je m'arrête là et je pourrais continuer jusqu'à arriver au Nouveau Testament et particulièrement au moment même où dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, on voit certains qui veulent imiter et qui tombent dans le piège parce qu'ils sont séduits par l'ennemi. Et en particulier, nous connaissons tous l'histoire d'Ananias et de Saphira et comment ils sont tombés aussi dans le péché. Donc, d'une manière générale, depuis le commencement, nous sommes appelés à être vigilants pour ne pas nous laisser avoir par les principes séducteurs qui viennent de la part du diable. Permettez-moi cette expression. Le diable ne vient jamais en proclamant, vous savez, je vais construire l'église de Satan. S'il parlait de cette manière-là, tout le monde se mettrait sur ses gardes et tout le monde se mettrait à l'abri de la puissance de la séduction. Mais il utilise, parce qu'il a une caractéristique particulière qui est dévoilée par l'Écriture, il utilise ce subterfuge. Nous savons qu'il est capable de se déguiser en ange de lumière. Et la parole de Dieu parle aussi de ministre de l'iniquité, c'est-à-dire d'hommes qui peuvent être sous l'influence puissante de l'ennemi et qui, avec des paroles quelquefois doucereuses, des paroles qui ont l'apparence de la vérité, sont capables de séduire. Ici, il est clairement dit l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et quand on lit avec attention cette épître de Paul à Timothée, on s'aperçoit que au commencement, l'apôtre Paul a parlé de ceux qui, justement, ont abandonné une bonne conscience. Et ayant abandonné une bonne conscience, ils ont rejeté la parole de Dieu et se sont fermés à la vérité, se sont fermés à la lumière qui vient de la part de Dieu et au travers de l'Écriture. Tandis qu'ici, dans le texte que nous avons lu, il parle ouvertement et il dit « Ils ont en eux-mêmes, eh bien, la marque de la flétrissure. » C'est-à-dire qu'ils se sont engagés encore plus loin, n'est-ce pas, dans corruption et leur conscience est comme complètement cautérisée. Et leur conscience étant complètement cautérisée, ils sont devenus insensibles à l'action du Saint-Esprit, insensible à la révélation de la parole de Dieu, et c'est comme cela qu'ils sont devenus des instruments d'iniquité entre les mains du diable, se faufilant dans les rangs de l'Église et faisant un travail qui est nuisible parce qu'ils conduisent dans des voies de perdition. Et ils peuvent avoir justement une apparence de piété. Justement, je voudrais souligner ceci. Il est dit, nous le savons par l'ensemble de ce qui est écrit dans la Bible, que l'apôtre Paul avait amené Timothée à la responsabilité, à la charge d'une certaine église qui est l'église d'Éphèse. C'est là que Timothée exerçait son ministère. Et Timothée, être attentif à l'enseignement qu'il avait reçu de la part de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, Paul va lui rappeler plusieurs fois, tu as été le témoin de mes souffrances, tu as été le témoin de ce que j'ai pu enseigner, de ce que j'ai pu dire. Et il lui a recommandé certaines choses qu'il doit également rapporter et établir dans l'Église de Jésus-Christ qui est à Éphèse. Et ici, dans cet épître, ce passage que nous avons lu, et notamment dans l'épître à Timothée, dans les chapitres précédents, l'apôtre Paul dit « Je t'instruis pour que tu saches comment on doit se conduire dans la maison de Dieu ». Vous savez, comme autrefois, par exemple, Moïse a été très attentif au modèle que Dieu lui avait fait voir sur la montagne concernant le tabernacle et que tout a été fait d'une manière conforme à ce que Dieu lui avait montré sur la montagne. La conséquence heureuse, c'est que le jour où justement il y a eu l'inauguration, vous savez que la gloire de Dieu s'est manifestée d'une façon formidable dans cette maison qui est la maison de Dieu. Eh bien, l'Église n'est pas construite n'importe comment. L'Église n'est pas édifiée n'importe comment. Et d'ailleurs, nous savons tous, dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de la manière dont nous devons bâtir, et il dit « prenez garde, sur quel fondement vous êtes en train de travailler ?» Le fondement pour l'Église, c'est l'enseignement des apôtres, et la pierre angulaire, c'est Christ. Et nous devons évidemment ne pas rejeter ce qui vient de cet enseignement qui a été donné par les apôtres et qui se trouve consigné dans l'Écriture. Nous devons donc être attentifs à cela. Et pour être attentifs, il est certain que nous devons méditer, nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu, nous appliquer à méditer l'Écriture et à nous tenir devant le Seigneur dans un exercice de piété. Et c'est à cela que l'apôtre Paul est en train d'engager Timothée. Et il le met en garde contre des enseignements qui viennent de la part de faux docteurs qui, dans le fond, ne tiennent pas compte du temps de la grâce et qui imposent des principes particuliers. Par exemple, certains enseignaient qu'il ne fallait pas manger telle et telle chose, et d'autres enseignaient de ne pas se marier. Et justement, l'apôtre Paul, dans un autre passage, notamment son épître aux Colossiens, explique une chose qui est très importante pour chacun d'entre nous. Et il dit, si vous êtes en Christ, si vraiment, en quelque sorte, vous êtes né de nouveau et caché en Christ, alors pourquoi vous impose-t-on telle ou telle chose? On vous dit, ne touche pas, ne dis pas, ne fais pas. Parce que nous avons une liberté en Christ. Mais attention, mes frères et sœurs, la liberté que nous avons en Christ, ce n'est pas la liberté de faire ce que bon nous semble, mais la liberté que nous recevons par la puissance de son Esprit de faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que nous devons obéir à la parole du Seigneur. Et quand nous obéissons à la parole du Seigneur, alors, évidemment, il y a une bénédiction qui s'ensuit pour nous. Alors revenons un peu à ce qui est mentionné ici par l'apôtre Paul. Il dit, certains vous disent de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela. Mais ça, c'est un enseignement qui venait tirer peut-être de certains principes qui se trouvaient dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans le temps de la grâce, quel est l'enseignement que nous trouvons? Par exemple, Paul dira aux Corinthiens que nous pouvons manger de tout ce qui se vend sur le marché sans nous inquiéter ou sans nous enquérir de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu a fait des choses bonnes qui sont à notre disposition et que nous pouvons prendre avec des actions de grâce. C'est la raison pour laquelle je me permets juste en passant ici de dire, mes frères et sœurs, n'oublions jamais de dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous accorde au niveau de l'alimentation. Peut-être cela vous paraît superflu et vous pensez à l'intérieur de vous-même pourquoi nous rappeler une chose aussi élémentaire. C'est parce que je sais qu'il arrive fréquemment à des chrétiens de prendre la nourriture comme si ce dont ils bénéficient et qui est mise à leur disposition, était une chose naturelle, sans même exprimer leur reconnaissance à Dieu. Moi, aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur, parce que si je suis habillé comme je suis habillé, c'est grâce à Dieu. Si j'ai pu manger à satiété aujourd'hui, et ça a été le partage de vous tous, très certainement, c'est grâce à Dieu. Parce que tout vient de sa main. Et nous ne devons jamais oublier d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il met à notre disposition, même au niveau de la nourriture. Maintenant, Il est dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous inquiéter de rien. Et la parole de Dieu, elle souligne, même au travers d'une certaine vision que Pierre, vous vous souvenez, a eue. Quand un jour, il était sur la terrasse de sa maison, il était en attente, parce qu'on devait lui préparer certainement un repas. Peut-être avait-il très faim, je ne sais pas, mais il a eu une vision et une nappe descendait du ciel avec toutes sortes d'animaux et même des animaux impurs mentionnés comme tels dans l'Ancien Testament. Et une voix s'est fait entendre et cette voix disait « Mange ». Et lui a dit « Mais moi je ne mangerai pas de ce qui est impur ». Et vous savez quelle a été la réponse de Dieu. Bien sûr, derrière cela, il y avait un enseignement pour Pierre, afin qu'il ne refuse pas d'apporter le message de la grâce à des païens que les Juifs considéraient comme des êtres impurs. Mais quand même, de toute manière, quand le déluge a pris fin et que Noé est sorti, n'est-ce pas, de son arche, quel a été l'ordre que Dieu lui a donné? Il est dit clairement, « Je te donne tous les animaux de la terre et l'herbe de la terre. Tue et mange. » Et donc, il n'y avait pas de restriction particulière. Alors, qu'arrive-t-il à certains personnages qui essaient d'imposer certains principes comme cela, comme si nous n'étions pas libres dans la grâce de Dieu? Et avant tout, n'oublions jamais, frères et sœurs, et ça c'est valable pour tout dans l'Église, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et c'est la raison pour laquelle nous devons agir avec une conviction profonde et en étant établis dans une relation étroite avec le Seigneur. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la question du mariage. Dans quelque temps, certainement, je parlerai aussi des relations sur le plan familial et de l'importance que cela revêt au milieu de l'Église et parmi les chrétiens. Cependant, j'aimerais quand même vous dire, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et chose étonnante, aussi simple que cela puisse paraître, Paul continue et il dit, en exposant ces choses, c'est-à-dire ce qu'il vient de dire, mais aussi en même temps, ce qui précède dans les chapitres précédents et que je vous invite à lire avec attention, il dit, alors tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et là, je m'arrête encore une fois sur cette expression. Que tu as exactement suivi. C'est important pour nous que nous sachions que de connaître les Écritures, c'est bien, mais de suivre l'enseignement des Écritures et d'obéir, c'est mieux. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce passage, l'apôtre Paul insiste d'une manière particulière sur l'exercice de la piété. Alors, j'ai relevé certaines choses dans cette lettre et je vous fais part de cela. La piété est recommandée dans les trois épîtres pastorales de l'apôtre Paul, c'est-à-dire les deux épîtres de Paul à Timothée, l'épître de Paul à Tite, et puis il y a aussi dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, plusieurs mentions faites à la piété. Je voudrais vous mettre en face de ces réalités. En 1 Timothée, eh bien, la mention de Dieu et de l'exercice de la piété se trouve mentionnée. Dans Tite, au chapitre 1 et au verset 1, la connaissance de la vérité doit produire la piété. En 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, La ruine est incomplète. La piété n'est plus qu'une formule dont la puissance est désavouée, elle est absente. Et c'est la raison pour laquelle il parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la force. En 2 Pierre, il est dit que nous devons envisager les temps de la fin et être fidèles en nous maintenant dans la piété. Qu'est-ce que c'est que l'exercice de la piété? Eh bien, vous savez, frères et sœurs, ne vous trompez pas, ce n'est pas un devoir que nous accomplissons à la va-vite. Alors, je vais m'engager avec beaucoup de prudence. Je sais très bien quelle est l'occupation de beaucoup de personnes, occupation quotidienne. Quelle est la charge que vous avez les uns et les autres chaque jour? Et je sais que certains se lèvent de bonne heure pour le travail et jusqu'à tard, ils sont en pleine activité. Mais mes frères et sœurs, je ne peux pas passer sous silence le fait que la parole de Dieu insiste pour que nous soyons fidèles dans l'exercice de la piété. La piété pour quelques-uns se résume à la lecture de quelques versets, plus ou moins faits rapidement. Ce n'est pas le fait de lire de longs chapitres, ce n'est pas le fait de lire plusieurs chapitres même qui est important. Et je ne suis pas en train de dire que si vous lisez que quelques versets, ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de lire la parole de Dieu en s'appliquant, mais en se posant la question: mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis au travers de cela? Et comment dois-je l'appliquer dans ma vie? Comment le mettre en pratique dans ma vie? Et vous savez, mes frères et sœurs, j'en ai fait l'expérience pour ma part. Si je me relève sans demander à Dieu le secours et la force de son esprit pour m'aider à vivre ce que la parole de Dieu enseigne, alors ça va rester au niveau de ma tête, m'apportant une certaine connaissance de la vérité. Mais si cette connaissance ne gagne pas mon cœur, ce qui est la foi qui saisit la doctrine pour la réaliser dans notre vie, et quand nous réalisons ce que nous avons compris de la doctrine éclairée par le Saint-Esprit, alors il y a un bonheur immense. Et si ça reste seulement au niveau de notre tête, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire des comparaisons avec peut-être l'expérience d'un autre tel ou d'une autre telle, et nous allons nous comparer aux autres. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, nous n'avons pas envie de nous comparer aux autres. Nous n'avons envie que d'une seule chose, c'est d'imiter le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que c'est lui, le Seigneur, qui doit être devant nos yeux comme l'exemple suprême. Et à partir du moment où je vais imiter le Seigneur, et c'est d'ailleurs ce que Paul recommande ici à Timothée, eh bien, ça sera beaucoup plus simple d'aider les autres, d'exhorter les autres. Peut-être quelqu'un est en train de se dire juste à ce moment-là, mais frère, ce que vous êtes en train de nous dire, eh bien, appliquez-vous-le. Vous êtes le pasteur, vous êtes le serviteur de Dieu. Ou peut-être quelqu'un pense, mais tout ça c'est valable, peut-être pour les moniteurs de l'école du dimanche, c'est valable pour ceux qui ont une responsabilité dans l'église. Non, mes frères et sœurs, c'est valable pour nous tous, parce que tous nous sommes serviteurs de Dieu. Tous nous avons quelque chose à faire, parce que nous sommes tous à l'œuvre dans l'église de Jésus-Christ, entre ses mains. Nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités, nous n'avons pas tous le même travail, mais tous nous sommes au service de Dieu. Et pour être au service de Dieu, eh bien, il faut vraiment que nous soyons capables d'exercer la piété avec beaucoup de sérieux. C'est la raison pour laquelle, ici, il y a cette mise en garde. À la fin, beaucoup abandonneront la foi. C'est quoi, abandonner la foi? Parce que les faux docteurs, ils parlent de Dieu. Ils parlent aussi à l'Église de choses qui correspondent au christianisme. Ne croyez pas que dans leur bouche, le nom de Christ ne se trouve pas. Il se trouve dans leur bouche et ils le prononcent, même peut-être des fois, très facilement. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils abandonnent la foi, c'est-à-dire la mise en pratique de ce qui est écrit. Et la mise en garde de Paul, c'est justement de lui dire, n'écoute pas les contes de certaines personnes. Vous savez, je me suis laissé dire que l'expression qui est utilisée quand il dit qu'il ne faut pas être attentif à ces contes particuliers qui sont donnés par ces faux docteurs, ça veut dire des contes de vieilles femmes, c'est-à-dire des choses que l'on radote. Mais vous savez, il n'y a pas que les vieilles femmes qui radotent parfois, même les vieux hommes, ça peut radoter. Et c'est justement ce que Paul veut mettre en relief. Il y a des choses qui sont dites, mais qui ne correspondent pas à la vérité. Ce sont des contes profanes. Et parmi les contes profanes, eh bien, je vais vous dire, frères et sœurs, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont établies, mises en place. Vous savez, on parle aujourd'hui d'églises émergentes. On parle aujourd'hui de croissance de l'Église. Et il y a toutes sortes de bouquins qui sortent pour mettre en évidence comment, effectivement, il peut y avoir un certain développement dans l'Église. Et bien souvent, on ne tient pas compte de ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. On oublie les anciens sentiers, mais on met en évidence certaines méthodes. Mais on le fait avec le nom du Seigneur que l'on met en avance. Parce que c'est important que l'on cite le Seigneur, parce que ça donne une apparence de spiritualité. Vous savez, pour être mis à l'abri de cela, nous n'avons qu'un seul moyen, c'est de nous plonger dans la méditation de l'Écriture. Frères et sœurs, pardon de rappeler cette chose-là. Je sais quel est le piège, je le constate pour moi-même, mais il nous faut faire très attention. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de moyens qui sont à notre disposition et qui servent tout simplement de distraction. Ces mêmes choses peuvent avoir des côtés ou des aspects très bons. Et une utilisation modérée, saine, peut être utile. Mais parfois, lorsqu'on dépasse certaines limites, ce sont des obstacles. Par exemple, ne croyez pas que je suis dans un esprit légaliste en vous parlant de cette manière-là. J'ai, comme la plupart d'entre vous certainement, la télévision à la maison. Mais vous savez comme il est si facile de passer des heures à la télévision. Bien plus de temps, je dis bien plus de temps, que ce que nous pouvons consacrer à la méditation de la parole de Dieu. C'est curieux. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'occupations, qui travaillent beaucoup, mais ils ont quand même le temps de passer des heures devant la télé. Mais ils ne passeront pas de temps à la méditation de l'Écriture. Et surtout, ils ne passeront pas de temps à prier le Seigneur. Vous savez, il n'y a rien qui soit plus bénéfique, plus bon, plus salutaire pour notre âme que ces moments de communion intense avec le Seigneur. Écoutez bien, frères et sœurs, l'exercice du devoir fait rapidement n'apporte rien à notre vie. Mais le temps que nous passons au Seigneur en lui parlant avec le cœur, une relation avec lui, la méditation de la parole du Seigneur, c'est une relation avec lui. C'est un dialogue avec lui. La foi nous amène à lui. Nous pouvons avoir une forme chrétienne, extérieure, et même nos réunions peuvent avoir cette forme-là, extérieure, chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est qui fait, je dirais, la force d'une réunion ? C'est quand les uns et les autres, nous venons ici avec un cœur qui est rempli du Seigneur et ayant établi cette relation avec lui, débordant d'amour pour lui, débordant de zèle pour lui. Et à partir de ce moment-là, nos efforts joints les uns aux autres, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un foyer qui s'embrase. Et quand ça brûle, eh bien, ça se voit aussi à l'extérieur. Vous ne le croyez pas ? Vous ne pensez pas que c'est ce qui nous manque ? Vous ne pensez pas que c'est de nous dont nous avons besoin ? Et il faut demander au Seigneur cette grâce. C'est pourquoi, ici, Paul insiste et il dit « déclare ces choses ». Alors, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs traductions à la maison de la parole du Seigneur. Et quand il est dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, il est dit, c'est en ordonnant ces choses. Et par exemple, le verset 11, où il est dit, déclare ces choses et enseigne-les, eh bien, le texte dans la traduction Darby dit « ordonne ces choses et enseigne-les ». Ça veut dire donc qu'il y a là une force particulière. Mais évidemment, pour que on puisse avoir un impact, il faut être un modèle. C'est la raison pour laquelle Paul dit à Timothée « sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite ». En charité, en foi et en pureté. Parce qu'il sait très bien que si ça n'est pas le cas, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas non plus d'impact dans les cœurs et dans les vies. Je vais vous dire, frères et sœurs, de la même manière que l'on retient beaucoup plus de ce que l'on voit que de ce que l'on entend, de la même manière, on retient davantage de ce que l'on peut constater chez quelqu'un que de ce que l'on entend de cette personne-là. Or, nous tous, nous avons un témoignage à rendre. Et pensez à ceci. L'exhortation de la Bible ce soir est très simple. Sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les autres, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Avez-vous remarqué, mes frères et sœurs, le nombre de fois où nos paroles ne sont pas à la gloire de Dieu ? Avez-vous constaté le nombre de fois où nos paroles sont vraiment loin d'être le reflet de ce que le Seigneur voudrait que l'on prononce ? La calomnie, le mensonge, les critiques acerbes, sans même quelquefois aucun fondement. Je ne parle pas seulement sur le plan local, ne croyez pas, je suis en train de parler simplement sur le plan local, mais d'une manière générale, dans l'Église. Quel mal cela peut être fait quand il n'y a pas le contrôle de la parole, ni le contrôle de la conduite. Et je suis le premier étonné, surpris, de découvrir, par exemple, que certains qui se disent serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, eh bien, ont un témoignage sur le plan de la moralité tellement déplorable, tellement contraire à ce que Dieu veut. Écoutez, je lisais il y a peu de temps le témoignage d'un certain personnage qui, finalement, était un évangéliste mondialement connu. Il est même passé dans cette région, et peut-être certains d'entre vous, les plus anciens, ont entendu parler de cet homme. Je ne citerai pas son nom. Sauf que cet homme qui a été utilisé d'une façon formidable par le Seigneur, eh bien, un jour, son témoignage a éclaté ouvertement. Et on sait que c'est un homme qui a couché avec les prostituées. Et quand cela a éclaté, eh bien, tout semble être démoli. Et vous savez ce qui se passe ? Eh bien, il y a un endroit, et dans ce pays, c'est comme cela, heureusement que ce n'est pas valable chez nous, où l'on croit à une restauration du ministère. Je vais vous dire, frères et sœurs, Je crois à la restauration de la grâce pour tous les chrétiens sans exception, y compris les serviteurs de Dieu. Dieu est celui qui pardonne le péché. Mais en ce qui concerne le ministère, la Bible dit, et Dieu le demande, il faut qu'il soit irréprochable. Et vous savez ce qui est arrivé à cet homme ? Eh bien, comme il s'est humilié, soi-disant, et demandé pardon, on l'a mis à la tête de la plus grande église de son pays. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'on a dit, eh bien, il est passé par une telle expérience que maintenant, il va être capable d'aider et de secourir les autres. Eh bien, s'il fallait que je passe par l'adultère pour aider les adultères, je me demande ce que ma femme comprendrait de moi. Et vous, mes frères et sœurs ? Vous imaginez un peu où nous en sommes ? C'est la raison pour laquelle il est dit ici, applique-toi, déclare ces choses, mais en les déclarant, sois aussi un modèle. Un modèle dans ta conduite, dans l'amour, dans la foi et surtout dans la pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Et chose curieuse, une autre traduction dit, applique-toi à la lecture, personnelle et publique. Et là, je rejoins un peu ce que nous avons entendu il y a quelque temps. Vous voyez, quand Esdras a lu la parole de Dieu, eh bien, tout le peuple était à l'écoute de la parole de Dieu. Et simplement la lecture de la parole de Dieu, de l'écriture, je pense à un frère qui est là au milieu de moi, de nous, pardon, et qui doit en ce moment me rectifier. Vous savez, j'utilise souvent, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et il m'a dit à juste titre, ne parlez plus comme ça, dites ouvrez l'écriture. Il a raison. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire, on ouvre les écritures. Et c'est la parole de Dieu que l'on enseigne. Et j'aimerais vous dire, quand Esdras a lu publiquement, il y a eu une action formidable au milieu du peuple de Dieu. Je crois qu'on a perdu l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu. Et dans le moindre détail, nous avons besoin de prendre garde à ce qu'elle nous enseigne. Et ceci nous amènera à quoi ? Mes frères et sœurs, non pas à obéir parce que le pasteur le dit, non pas à obéir parce que vous avez entendu quelque chose depuis l'estrade, et que vous avez cette notion peut-être erronée, que puisqu'il l'a dit, ça doit être fait. Je répète encore une fois, quand on obéit à quelque chose, ce n'est pas par rapport au pasteur, ni par rapport à qui que ce soit, mais par amour pour le Seigneur. Et quand il y a l'amour de la vérité et l'amour de Dieu dans notre cœur, en obéissant à la parole du Seigneur, eh bien tout change. Et c'est une réelle bénédiction pour notre vie personnelle et puis aussi pour toute l'Église. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Mais à un moment donné, il dit l'exercice corporel est peu de choses. Je profite de l'occasion pour vous dire attention, Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas l'exercice corporel. Ça me ferait beaucoup de bien, vous le pensez, si j'avais l'occasion d'avoir un peu plus d'exercice corporel. Il m'arrive parfois de faire juste quelques pas et de ressentir combien je suis lourd. Mais certainement qu'il me faudrait un peu d'exercice corporel. Jamais la parole de Dieu n'est contre l'exercice corporel. Mais Paul dit ceci, c'est utile à peu de choses. Dans un autre passage, il parle de certains athlètes qui font des efforts considérables pour pouvoir obtenir une couronne qui est corruptible. Puis j'ai réfléchi à cela. Effectivement, quand même, les meilleurs athlètes, n'est-ce pas, dans les Jeux olympiques, reçoivent une médaille, une petite pièce comme cela, en or, en argent ou en bronze. Mais qu'est-ce que ça représente, ça ? Puis juste ce qu'ils font, ils le font davantage pour la gloire qui ne dure qu'un instant. Parce que l'exercice corporel, voyez-vous, pour aussi fort que l'on soit, un jour ou l'autre, il faudra se rendre à l'évidence. physiquement, on passe très vite. Notre vie n'est qu'une vapeur. Voulez-vous que je vous dise, frères et sœurs, dans quelques semaines, je ferai 77 ans. C'est déjà pas mal, hein? Eh bien, il me semble que c'était hier que j'avais 20 ans. Vous vous rendez compte? Comme le vent, le temps passe vite. Il me semble que c'était hier. Aujourd'hui, il y a des petits-enfants, il y a des arrière-petits-enfants. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils sont là? Ils sont arrivés comme ça, si vite. Il me semble que c'était hier que j'ai accompagné quelques-uns des miens à l'école. Oui, c'est vrai que notre vie passe très rapidement. Très rapidement. Mais nous avons une espérance formidable. Notre objectif, c'est vraiment que Dieu soit honoré et glorifié en toutes choses. Et un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle, si nous sommes capables de consacrer du temps aussi pour nous maintenir en forme sur le plan physique, ce qui est une bonne chose certainement, mais à plus forte raison, devrions-nous consacrer du temps pour nous tenir en forme sur le plan spirituel, en forme sur le plan spirituel, pour que ainsi, eh bien, Dieu puisse être glorifié dans nos vies. C'est la raison pour laquelle, et je vais terminer par là, Paul dit à Timothée, si tu agis de cette manière-là, si tu rappelles ces choses, et prenez, s'il vous plaît, le temps de relire tout ce que Paul a écrit dans l'Épître à Timothée, c'est très important pour la maison de Dieu, pour la vie personnelle, pour la vie familiale. Relisez tout cela. Eh bien, il dit lui-même, c'est utile pour le temps présent et c'est utile pour l'éternité. Et il dit, en agissant de cette manière-là, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc vous voyez comment nous pouvons être un canal de bénédiction, que le Seigneur nous aide. Et que nous puissions simplement réaliser en pratiquant ce qui est écrit dans ce texte, la volonté de Dieu, et Dieu se glorifiera. Prions ensemble quelques instants encore.